Alors, bon matin à vous tous, un très bon dimanche. Que le Seigneur nous bénisse tous ensemble autour de sa parole. Alors, je vous invite à prendre vos Bibles, s'il vous plaît, et trouver le livre des Psaumes, Psaume 43. Et ce message, dont le titre c'est la joie. Dieu, ma joie et mon allégresse. C'est en fait une suite du message que j'ai apporté le mois dernier, qui était basé sur l'amour. Rappelez-vous que dans Jean 15, le dernier discours de Jésus à ses disciples, avant d'aller à la croix, Jésus parle de l'amour. Pas moins que 30 fois. Mais il y a aussi un autre thème qui revient. À 6 reprises, Jésus va parler de la joie. De la joie. Et pourquoi en est-il ainsi? C'est parce que Dieu veut que ses enfants soient non seulement caractérisés par l'amour, mais Dieu veut aussi que vous et moi, que nous soyons aussi caractérisés par la joie. C'est la volonté de Dieu le Père. C'est la volonté du Fils. Dieu est un. Et c'est aussi la volonté du Saint-Esprit. Vous savez, le texte dans Galates nous dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour et aussi la joie. Alors, lisons notre texte ce matin, Psaume 43. Je vais lire au partir du verset 1 pour le contexte. Le psalmiste dit ceci, « Rends-moi justice, ô Dieu, défends ma cause contre une nation infidèle. » Délivre-moi des hommes de fraude et d'iniquité. Toi, mon Dieu protecteur, pourquoi me repousses-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Envoie ta lumière et ta fidélité. Qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. Pardon. J'irai vers l'autel de Dieu, ma joie et mon allégresse. Je te célébrerai sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu. Alors, c'est notre texte pour ce matin et nous allons focaliser sur l'expression que nous trouvons au verset 4. Dieu, ma joie et mon allégresse. Alors, laissez-moi vous poser une question. Êtes-vous un chrétien joyeux? Si on demandait à votre femme, si vous êtes marié, votre mari, ou quelqu'un qui vous connaît, comment répondrait-il? Ou encore, connaissez-vous des chrétiens joyeux? Et si la réponse est oui, mais quel est leur secret? Comme quelqu'un a bien dit, trop souvent nous, et je m'inclus dedans, trop souvent nous ressemblons aux pharisiens à l'époque de Jésus. Eux, ils étaient reconnus pour leur robe qui était longue, leur prière qui était très longue, et aussi leur face qui était aussi longue. Et comment se fait-il que nous cherchons la face de Dieu quand nous avons besoin de l'aide? Il n'y a pas de difficulté quand nous avons besoin de l'aide, nous sommes dans le pétrin, on tourne naturellement vers Dieu parce que Dieu est notre secours. Psaume 54, verset 6. Quand nous avons besoin de protection, on tourne naturellement vers Dieu parce qu'il est notre bouclier. De force, on cherche la face de Dieu, Dieu est notre rocher. De direction, Dieu est notre guide. Et comme je dis, normalement, nous n'avons pas de difficulté à faire cela. Mais quand était la dernière fois, quand vous vous êtes rendu compte que vous étiez en panne sèche de joie, quand est-ce que vous avez crié à Dieu? Dieu qui est notre joie et notre allégresse, quand est-ce que vous et moi, nous avons vraiment crié à Dieu et dire à Dieu, j'ai besoin. J'ai besoin de ta joie. Et je répète ce que j'ai dit au début, la volonté de Dieu pour nous, pour vous et pour moi, c'est que nous soyons joyeux, caractérisés par la joie. Jésus a dit à ses disciples dans Jean 15, 11, « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Littéralement, que votre joie soit à son comble. Il n'y a pas de demi-mesure avec Dieu. Et vous savez, le Petit Larousse va définir la joie comme ceci, un sentiment de bonheur intense, de plénitude éprouvée par une personne dont une aspiration, un désir est satisfait. Alors Dieu se révèle dans sa parole à nous comme étant un Dieu de joie et d'allégresse, et aussi il nous montre dans sa parole comment y accéder. Et ce matin, j'aimerais regarder avec vous trois aspects de la joie. Alors, premièrement, vous et moi, si nous sommes sauvés ce matin, nous devrions être des gens heureux, joyeux, parce qu'il y a de la joie dans le salut. Nous sommes sauvés, ça fait 1 an, 5 ans, 10 ans, 40 ans, peut-être quelques-uns un peu plus. Nous devrions être des chrétiens joyeux. Pas besoin d'y tourner, mais dans ce beau texte dans Ésaïe, quelle belle illustration. Ésaïe va dire ceci, « Vous puiserez de l'eau, comment? Avec joie, aux sources du salut. » Et je vais mettre le texte dans son contexte. Le livre d'Ésaïe, et en passant, le mot Ésaïe, le nom Ésaïe veut dire « l'Éternel sauve ». Alors, ce livre-là parle abondamment de la fidélité de Dieu à l'égard de la nation d'Israël et souligne que Dieu ne rejettera pas son peuple. Au contraire, Dieu s'engage par sa propre parole à accomplir les promesses qu'il a faites. Il ramènera ce peuple à lui et il le bénira un jour futur. Et même si Dieu doit juger les péchés de son peuple, au chapitre 12, au verset 3, il parle de sa restauration à la nation d'Israël et la joie qui allait accompagner cette restauration. Et ça, c'est une belle image. Et Jésus va reprendre cette même image dans Jean chapitre 4, vous connaissez bien l'histoire avec la femme samaritaine. Et Jésus va parler du salut de Dieu comme étant une source d'où jaillit de l'eau capable d'étancher la soif spirituelle de l'âme. Alors, Ésaïe 12, 3 nous dit ceci, que la joie est associée avec le salut. Dans Luc chapitre 15, au verset 10, Jésus va dire ceci, « Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » Et bien sûr, la repentance mène au salut. Alors, la joie associée avec le salut. L'eunuque, dans les Actes des Apôtres, cet homme qui a rencontré, que l'évangéliste Philippe a rencontré, il a accepté le Seigneur. Sa déclaration, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il se fait baptiser. Et qu'est-ce que le texte nous dit? Que joyeux, il poursuivait sa route. Et aussi, nous avons dans l'histoire de David, un homme qui a commis un péché terrible d'adultère, mais quand il se repent et il est brisé devant Dieu, quel est le souci de son cœur? Il a dit, « Oh Dieu, rends-moi la joie de ton salut. » Alors, qui dit salut, dit aussi joie, joie et encore joie. Et pourquoi en est-il ainsi? Pourquoi est-ce que la joie est intimement associée avec le salut? Je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez que l'homme, Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Et parmi toutes les choses que Dieu a voulu aussi que l'homme jouisse d'une relation d'intimité avec son Créateur et qu'il trouve son plaisir, sa satisfaction, sa joie, son épanouissement de son âme, dans qui? En Dieu. Et malheureusement, à cause de la chute, cette relation a été brisée et l'homme se trouve, avant sa conversion, loin de son Dieu, le cœur vide et au comble de l'insatisfaction. Vous savez, Blaise Pascal a si bien dit, il y a un vide en forme de Dieu dans le cœur de chaque homme, qui ne peut être rempli par aucune chose qui ait été créée, mais seulement par Dieu qui s'est fait connaître aux hommes par Jésus-Christ. Alors voilà pourquoi l'homme sans Dieu cherche désespérément à combler ce vide. L'homme, il est conscient qu'il y a un vide. Et il cherche à combler ce vide par toutes sortes de choses. Je vous en nomme trois, il y en a d'autres. Des possessions, souvent le pouvoir, souvent le prestige et sans succès. Et souvent, et pas souvent, ça mène inévitablement à la frustration, l'insatisfaction et la déception. Mais quand par la repentance et par la foi dans l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ à la croix, l'homme est connecté de nouveau à son Dieu, ce vide est comblé. Les désirs et les aspirations de l'âme sont comblés. Et quel est le résultat? C'est la joie. La joie qui est merveilleuse et glorieuse, dont parle l'apôtre Pierre dans 1 Pierre 1, 8. Et que fait un cœur? Un cœur qui était vide. Et maintenant, le vide a été comblé par le salut de Dieu. Qu'est-ce que ce cœur va faire? Chanter. Chanter comme les enfants qui chantent à l'école du dimanche. Joie, joie, mon cœur est plein de joie. Joie, joie, mon cœur est plein de joie. Pourquoi? Parce que Jésus vit à jamais en moi. Mon cœur chante plein de joie. Alléluia! Parce que le cœur et les aspirants, l'aspiration du cœur sont remplies et la joie en est le résultat. Alors, qu'en est-il pour nous ce matin? Et sans doute, vous qui êtes sauvés, vous pouvez vous identifier. Rappelez-vous un instant le jour de votre salut. Quand vous avez saisi par la foi qui était Jésus-Christ. Quand vous avez goûté que l'Éternel est bon. Quand le fardeau de vos péchés ont été enlevés, hey, il y avait des palpitations dans le cœur. Je me souviens le jour que j'ai été sauvé. J'étais heureux, j'étais content, j'étais joyeux. Et même, je voulais comme monter sur les toits des maisons et crier à tout le monde, « Hey, 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 écoute, je suis sauvé. » Il y a joie dans le salut. Et nous qui sommes sauvés, ça ne devrait pas seulement le jour de notre salut. Nous devrions être en train de le démontrer à tous les jours que nous possédons cette joie, la joie de notre salut. Et j'ai réfléchi à cela, j'ai pensé à la bonté de Dieu. La bonté de Dieu de vouloir et de pourvoir le moyen par lequel vous et moi, nous puissions retrouver ce qui a été perdu en Éden. Quel amour de la part de Jésus de faire le sacrifice suprême en donnant sa vie pour que cela soit possible. Quel amour d'endurer les souffrances les plus atroces, 6 longues heures sur la croix, dans une agonie extrême, rejeté par les hommes, abandonné par le Père, pour nous épargner une éternité de souffrance et nous donner en retour une éternité de joie. Et quelle grâce de la part de l'Esprit-Saint, malgré nos faiblesses, malgré nos manquements, l'Esprit-Saint est toujours à l'œuvre en nous, jour et nuit, cherchant toujours à reproduire en nous son fruit. Comme j'ai dit au début, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, ainsi de suite. Alors Dieu veut que nous soyons joyeux. Et quel Dieu merveilleux nous avons, alors, et quelle motivation de le louer et de l'adorer pour son salut, la seule vraie source de joie. Et dans la mesure que nous sommes joyeux, c'est une preuve, une démonstration envers Dieu que nous apprécions ce qui lui a coûté tellement cher pour que nous puissions avoir la joie. Et j'ai réfléchi à cela pendant le repas du Seigneur, parce que quelqu'un a fait aussi un lien, et je pense que c'était Matthieu. Dieu nous donne ce beau cadeau. Dieu paye si cher pour que nous puissions l'avoir, être joyeux. Alors, qu'est-ce que je fais avec? Est-ce que dans ma vie maintenant, je suis en train de vivre en conséquence et démontrer que j'apprécie ce qu'il a fait à mon égard? Alors, la joie dans le salut. Deuxièmement, ce matin, non seulement nous devons être joyeux à cause du fait si nous sommes sauvés, il y a la joie dans le salut, et aussi il y a la joie dans le service, la joie dans le service. Le service pratiqué pour Dieu, et pas besoin d'y tourner, mais il y a un psaume 100, verset 2 qui dit ceci, « Servez l'Éternel, comment ?» Avec joie. Venez avec allégresse dans sa présence. Servez l'Éternel, pas avec la face longue, mais avec joie. Et vous savez, Dieu prend ça au sérieux. Il y a un texte qui fait réfléchir. Dans Deutéronome 28, verset 47, c'est ce que Dieu attendait de la part d'Israël. Il leur montre des conséquences désastreuses pour la désobéissance. Il va dire ceci. « Pour n'avoir pas servi l'Éternel par l'Israël, ton Dieu, avec joie et de bon cœur, tu serviras tes ennemis. » Je sais que cela s'est passé à une autre époque, dans un autre contexte, sous la loi, mais ça fait réfléchir. Dieu dit, tu ne me sers pas avec joie, mais là vous allez servir vos ennemis. Alors avant d'aller plus loin, j'aimerais juste ouvrir une parenthèse en ce qui concerne le service. Vous savez, notre relation avec Dieu, il y a plusieurs belles images que la Bible nous dit, afin de nous aider à mieux comprendre, mieux apprécier et mieux remplir notre rôle dans cette relation. Alors, il y a la relation père-enfant. Vous avez ça dans Psaume 103, verset 13. Berger, brebis, vous avez époux, épouse, vous avez le corps, donc Christ est la tête et nous sommes les membres. Mais vous avez aussi la relation maître-serviteur. Et le mot ici, littéralement, veut dire esclave. Le mot doulos. Dans Jean 13, Jésus va dire à ses disciples, « Vous m'appelez maître et Seigneur et vous faites bien, car je le suis. » Les croyants, la Bible nous dit que nous sommes serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Et dans Colossiens, nous lisons ceci, « Servez Christ le Seigneur. » Et l'apôtre Paul, grand apôtre, mais souvent dans ses lettres, quand il écrit aux croyants, à Rome, à Philippe, etc., il va dire « Paul, serviteur de Jésus-Christ ». Littéralement, « Paul, esclave de Jésus-Christ ». Alors, le croyant néo-testamentain n'avait pas de difficulté à bien saisir le sens et l'implication de ce terme. Mais nous, en l'an 2016, dans un autre contexte, avec notre pensée occidentale, on a un peu plus de difficultés avec ça. Alors, nous sommes serviteurs esclaves de Jésus-Christ et 2 Corinthiens 6, 19, 20 nous explique pourquoi. Le texte nous dit ceci, « Vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. » Et c'était quoi le grand prix, comme nous avons vu ce matin? Jésus-Christ, sur la croix, a versé son sang, pour vous et pour moi, pour nous délivrer de l'esclavage du péché, l'esclavage de Satan, pas pour que nous puissions faire n'importe quoi, parce que si on fait n'importe quoi, on est encore esclave de la chair, mais pour que nous devenions esclaves de Dieu et esclave de la justice. Ça peut nous choquer notre mentalité occidentale, mais c'est le meilleur type d'esclavage, d'être esclave à Dieu. Parce qu'il faut être esclave de quelqu'un. Et si on n'est pas esclave de Dieu, on va être esclave d'Achan. Moi, j'aimerais être esclave de notre bon Dieu. Alors ça, c'est l'idée de notre relation. Alors, vous pouvez comprendre maintenant pourquoi Christ est le maître. Il nous a rachetés par son sang. Il a payé le prix. Nous sommes ses serviteurs. Et c'est pourquoi maintenant Dieu est dans son droit d'exiger de nous le service. Servez l'Éternel avec joie. Alors, il y a deux questions qui se posent. Sommes-nous en train de servir celui qui nous a rachetés? Celui qui est notre maître et nous sommes ses serviteurs. Et deuxièmement, comment sommes-nous en train de servir? Le Seigneur avait envoyé 70 disciples et ils reviennent après leur ministère. Et qu'est-ce qu'ils disent? Le 70 revient avec joie. Bien content d'avoir accompli ce ministère pour le Seigneur. Et l'apôtre Paul a un âge avancé. Et quand je lis ce texte, même si nous appartenons à l'âge d'or, pour ne pas dire que nous sommes des petits vieux, là, je mets un coup là-dedans, j'espère que notre désir est comme celui de l'apôtre Paul. À un âge avancé, il a dit ceci: je ne fais pour moi-même aucune calme à ma vie, pourvu que j'accomplisse ma course, comment? Avec joie. Et le ministère, le service que j'ai reçu du Seigneur. Alors Dieu s'attend à ce que nous le servions avec joie et il a pourvu des moyens pour que ce soit possible. Ce matin, je vais en considérer deux. Il y a la joie à travers le ministère de l'évangélisation. 2 Corinthiens 5, 18 nous dit ceci: Dieu nous a réconciliés avec lui par Christ et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Vous savez, Dieu, il aurait pu donner ce ministère aux anges. Ils sont plus puissants, ils sont plus intelligents. Ils peuvent faire un bien meilleur job que nous autres. Mais le Seigneur nous fait la grâce d'être ambassadeurs pour Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui se passe quand nous mettons Matthieu 28, 19 en pratique? Allez, faites de toutes les nations des disciples. Mais vous savez qu'est-ce qui se passe? Il y a des conversions. Quand nous prêchons l'Évangile, il y a les gens qui sont sauvés. Et qu'est-ce qui se passe quand les gens sont réconciliés avec Dieu? Il y a la joie, comme on vient de voir. Une âme qui est sauvée est une âme qui est joyeuse. Mais la question que je vous pose ce matin, est-ce que la joie est réservée seulement pour celui ou celle qui s'est abreuvé aux sources du salut? Et la réponse est non. Pourquoi? Et nous avons cette belle image dans Luc chapitre 15. Quel beau chapitre et quelle belle image de l'évangélisation et des conversions. Quand le berger retrouve la brebis égarée, perdue, qu'est-ce qu'il fait? Il la met avec joie sur ses épaules. Mais ce n'est pas tout. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle ses amis et ses voisins. Et qu'est-ce qu'il leur dit? « Réjouissez-vous avec moi! » Et ça ne s'arrête pas même pas là. Il y a aussi la joie au ciel, les anges sont en fête. C'est la fiesta au ciel parce qu'il y a un pécheur qui s'est repenti. Alors, il y a joie partout. Le sauveur est joyeux, l'entourage est joyeux et aussi les anges sont joyeux et bien sûr aussi celui qui a été sauvé aussi est joyeux. Alors, il y a la joie associée avec le ministère de l'évangélisation. Et peut-être aussi, ce matin, vous, quand vous avez été utilisé par Jésus-Christ pour amener une âme, la joie que vous avez ressentie de voir cette personne-là venir au Seigneur. Et deuxièmement aussi, il y a la joie dans le ministère, à travers le ministère de l'édification. La conversion apporte la joie, mais aussi la consécration apporte aussi la joie. L'apôtre Jean va dire ceci, et j'appelle ça la joie du pasteur. J'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Et l'apôtre Jean, vous savez, nous qui sommes parents, et ici vous avez des petits-enfants, là, je vois déjà ici un petit bébé dans la salle, là, les parents sont heureux quand leurs enfants sont en bonne santé physique. L'apôtre Jean, lui, il était aussi heureux, il se réjouit parce que ses enfants spirituels sont en bonne santé spirituelle. Et ça, ce texte-là est en parfait accord avec Hébreux 13, 17. Je vous le lis. Le texte dit ceci: obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, du respect. Pourquoi? Car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, pourquoi? Afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Alors, si vous voulez être une source de joie pour vos pasteurs, et ici je prêche un peu pour ma paroisse, soyez une église en bonne santé, spirituelle, qui marche dans la vérité en mettant la parole de Dieu en pratique. Ça va faire des leaders qui vont être bien contents, qui vont être bien heureux. Ils vont faire le travail avec joie. Mais cette joie est-elle seulement pour les pasteurs? La réponse est non. Et je vous explique pourquoi. Parce que tout enfant de Dieu, quand vous êtes en santé spirituelle, vous marchez dans la vérité. On a le texte ici. Une église en santé spirituelle marche dans la vérité. Et quand vous marchez dans la vérité, vous obéissez à la parole de Dieu. Ça va de soi. En marchant la vérité, on obéit à la parole de Dieu. Et quand nous obéissons, quand vous obéissez à la parole de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Mais il y a un beau texte dans Psaume 119, 14, va dire ceci: je me réjouis en suivant tes préceptes. En mettant la parole de Dieu en pratique, en obéissant à la parole de Dieu, ça apporte aussi du joie pour celui ou celle qui le met en pratique. Alors, il y a la joie pour une église qui est en santé. Les pasteurs font leur travail, non en gémissant, mais avec joie. Mais le peuple aussi, à cause du fait qu'ils suivent la parole de Dieu, le peuple aussi est joyeux. Mais il y a le contraire aussi. Et je prends le temps de le mentionner. Si l'obéissance produit la joie, la désobéissance produit exactement le contraire. Pour citer Hébreux 13 encore, quand il y a de l'insoumission, les leaders, le texte nous dit, gémissent. Ils font le travail, mais ce n'est pas joyeux. Et les personnes ou la personne qui est insoumise ne récolte aucun bénéfice. Ce texte nous dit qu'il ne vous sera d'aucun avantage. Et comme on dit en bon anglais, tout le monde est loser dans un tel contexte. Mais quand il y a de l'obéissance à la parole de Dieu, quand l'Assemblée, les chrétiens sont en bonne spirituelle, santé spirituelle, il y a aussi la joie partout. Et j'aimerais ici faire une application pratique de ce texte ici. Quelqu'un a bien dit, il n'y a pas d'église parfaite. Et si un jour vous pensez l'avoir trouvée, n'y allez pas. Elle ne sera plus parfaite. Alors, ce matin, je ne vous apprends rien de nouveau. L'église de Cap-la-Madeleine, même avec son beau bâtiment, un écran ici, là, on est vraiment, on est en Cadillac, là, ici, là, OK? Mais même avec tout cela, cette église, elle n'est pas parfaite. Elle a ses forces et ses faiblesses. Et vous savez, notre ennemi, Satan, est un expert pour nous faire focaliser sur les faiblesses. Focaliser sur le petit point noir et oublier de regarder la grande page blanche qui est là. On est des experts à faire cela et Satan est expert pour nous inciter à faire cela. Et malheureusement, trop souvent, il réussit. Et le résultat, c'est une église malheureuse. Il y a du mécontentement. Et ces choses-là peuvent faire des graves dommages parmi le peuple de Dieu. Et j'écris ici, comment contrer cela? Comment déjouer justement les pièges de l'ennemi? Je vous donne deux exemples dans le pratico-pratique. Soyons une église qui est fervente dans la prière, dans l'intercession. Ça, c'est notre arme la plus puissante, c'est la prière. Et prions les uns pour les autres. C'est tellement important de prier pour nos frères, prier pour nos sœurs. de les amener devant, prier pour les leaders devant le trône de grâce. Et aussi prier pour les perdus. Et mettons les pattes à nos prières. Soyons une église qui évangélise. Et vous savez, nous avons eu une grande joie quand nous avons ouvert les portes ici. On a fait la dédicace. Et pour ce beau bâtiment matériel, physique que le Seigneur nous a donné, on était contents. Imaginez-vous, là, si on sort l'évangile des quatre murs, le Seigneur est en train de bâtir un autre bâtiment, mais un bâtiment spirituel. Et les âmes qui vont être ajoutées, ces pierres précieuses et vivantes qui vont être ajoutées à cette église, ça produit quoi? Ça produit la joie. Ça produit la joie et on ne serait pas en train de regarder nos petites différences. Puis on va être tellement occupé à prêcher Christ et de s'épanouir dans l'œuvre que le Seigneur est en train de faire. Et c'est ma prière qu'il en soit ainsi pour sa gloire. Et troisièmement, la joie dans le service, la joie dans le salut, la joie dans le service, mais aussi, et je garde ça pour la fin, il est possible de préserver notre joie dans les souffrances permises par Dieu. C'est possible. Est-ce que c'est facile? Je dis c'est possible, oui. Mais est-ce que c'est facile? La réponse est non. Préserver notre joie dans la souffrance est tout un combat. Préserver notre joie quand nous recevons un mauvais rapport du médecin. Et en passant, ceux qui, les hommes qui, vous avez plus de 50 ans, un bilan annuel de santé, c'est très important chaque année. Préserver notre joie quand nos finances vont mal ou nous perdons notre emploi, quand nous souffrons injustement, sommes persécutés à cause de notre foi, quand nos enfants ne suivent pas le Seigneur, c'est un fardeau. Préserver notre joie dans de telles circonstances, préserver notre joie dans les épreuves, ce n'est pas facile. Il y a un texte dans Hébreux 12, 11 qui nous dit ceci, « Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de croix de tristesse et non de joie. » Combien Dieu connaît nos cœurs, combien il sait que pour nous, il est tellement plus facile de focaliser sur les circonstances et de devenir attristé et perdre notre joie. Et je ne veux pas non plus ce matin minimiser justement les tempêtes. Les tempêtes peuvent être très dures, très difficiles. Et si vous êtes dans une telle situation, j'aimerais vous encourager ce matin. La parole de Dieu nous dit et nous démontre qu'il est possible de préserver notre joie malgré les circonstances. Alors l'apôtre Jacques a dit ceci, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète. Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. On dit, wow, un instant, Dieu. Veux-tu que je sois un masochiste? Comment peut-il, Dieu, s'attendre à ce que nous soyons joyeux dans l'épreuve quand chaque fibre de notre être crie le contraire? Quand nous avons hâte souvent que l'épreuve cesse, et même si nous ne disons pas, notre attitude dit, j'avais pas besoin de cela. J'aimerais vous proposer une solution dans deux parties. Tout d'abord, dans l'épreuve, très important de comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans votre vie et dans la mienne. Si je posais la question ce matin, qui pour Dieu, le Père, est la plus grande source de joie? Et si vous répondez, mais son Fils Jésus-Christ, vous avez raison. Et je vous donne deux textes, Matthieu 3, 17, je prends la version Semeur. Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. Dans l'autre version, Ésaïe 42, 1, parole de vie, dit ceci, « Voici mon serviteur que je tiens par la main, celui que j'ai choisi avec joie. » Alors le Fils Jésus réjouit le cœur de Dieu. Et vous et moi, nous réjouissons le cœur de Dieu quand nous ressemblons à Jésus. Et je peux vous dire une chose, nous ne pouvons pas ressembler à Jésus dans son omnipotence. On n'est pas Dieu. On ne peut pas ressembler à Jésus dans son omniprésence. On ne peut pas ressembler à Jésus dans son omniscience. Mais vous et moi, par notre attitude et notre réaction face aux épreuves que Dieu permet dans nos vies, nous pouvons ressembler à Jésus. À celui qui, selon Hébreux 12, 2, a dit ceci, « En vue de la joie qui lui était réservée, il a souffert ou enduré la souffrance de la croix. » Et ça, c'est une grâce. La grâce que Dieu nous accorde de ressembler à Jésus. Et quelle joie pour nous de savoir que nous pouvons, comme Jésus, avec une bonne attitude dans la souffrance, réjouir le cœur de notre Père Céleste, parce que nous ressemblons à son Fils. Et l'apôtre Paul y avait bien compris cela. Dans Éphésiens, dans Philippiens, il écrit à ses chrétiens, et en passant, c'est l'épître qui regorge de joie. Et l'homme est en prison, il est dans un donjon romain. Et ces circonstances sont difficiles. Et à travers cela, vous avez cette joie qui émane. Et il dit à ces chrétiens-là, j'aimerais connaître la communion de ces souffrances en devenant conforme à Christ. Alors ce matin, quelle est notre attitude dans la souffrance? Et deuxièmement, pas seulement comprendre avec ce que Dieu est en train de faire dans notre vie, mais soyons complices avec Dieu. Je pense ici à Habacuc, cet homme aussi dans un contexte difficile en Israël. Ça va mal, le peuple est dans le péché par-dessus la tête, mieux pour le jugement de Dieu. Et Habacuc va dire ceci, il va dire ceci, toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Pourquoi? Parce que, au lieu de focaliser sur ces circonstances, il a focalisé sur Dieu. Et il y a trois manières de faire cela quand nous sommes dans l'épreuve. Focaliser sur Dieu en le remerciant pour sa présence. Même si nous sommes au milieu de la tempête, nous avons cette assurance de notre Seigneur, je suis avec toi. David a dit, même si je marche dans le vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Et Dieu, il colle, il est là. Je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point. Alors, remercie le Seigneur dans l'épreuve, même si c'est difficile, je sais que c'est difficile, que Dieu était avec nous dans l'épreuve. Pour sa puissance, vous criez au Seigneur, deux choses peuvent arriver. Il peut calmer la tempête autour de vous, mais il peut aussi calmer la tempête qui est en dedans de vous. Et vous donner sa grâce qui est toute suffisante. Et troisièmement, remercier le Seigneur pour sa parole. La parole de Dieu dans l'épreuve est une source de consolation. C'est une source d'inspiration, d'espoir. Et Jérémie va dire ceci, « Tes paroles, j'ai recueilli tes paroles, il a dit, et je les ai dévorées. Et tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. » Et Jérémie, il est dans une situation difficile. Israël est en exil, et juste avant l'exil, le jugement de Dieu s'en vient. Jérémie dit, « La parole de Dieu, c'est ma consolation dans ces situations extrêmement difficiles. » Alors, je termine avec, soyez complices avec Dieu, focalisez sur Dieu aussi, mais focalisez sur les autres. Il y a un beau texte dans Actes qui dit, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Parce que très souvent dans l'épreuve, qu'est-ce qu'on fait? On s'appuie trop sur notre sort. « Pauvre de moi, si vous saviez que je suis en train de vivre. » Focalisez sur les autres. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Je pense ici à Dorcas. Veuve. En Israël, à l'époque, il n'y a pas de pension du mari, il n'y a pas d'allocation du survivant, il n'y a pas de bien-être social. C'est difficile d'être veuve. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait beaucoup de bonnes œuvres et de monde. Elle n'est pas une femme qui s'appuie trop sur son sort, est en train de focaliser sur les autres. Et je suis certain que vous demandez à Dorcas, vous verrez qu'un homme, plutôt une femme joyeuse. Et quand quelqu'un a dit le meilleur remède pour la déprime, c'est d'aller servir les autres. Oubliez tes bobos, mettez-vous au service des autres. Je termine avec ceci. Ce matin, je termine où est-ce que j'ai commencé. Ma question, sommes-nous caractérisés par la joie? Psaume 16, 11 dit ceci, « Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite. » Ça nous parle de l'état éternel. Et si nous ne voulons pas que quand nous arrivons au ciel et les neurones sautent, c'est le temps de commencer à pratiquer. Parce qu'en fait, OK, alors, si ce matin vous êtes en panne sèche de joie, c'est le temps d'ouvrir notre cœur. Le Seigneur nous connaît. Il connaît nos cœurs. Il connaît nos faiblesses. S'il y a quelque chose dans nos vies, il est capable de mettre son doigt sur le bobo pour dire, mon enfant, c'est ça. C'est ça qui te prive d'être à joie. Et par sa puissance, il est capable de nous transformer, de nous remplir de nouveau de son esprit, de sa joie, et de faire de nous des chrétiens joyeux qui veut que nous soyons. Vous savez, il y a un dicton qui dit, on n'attire pas des mouches avec du vinaigre. Est-ce possible qu'il y ait des personnes dans votre entourage et le Seigneur aimerait les amener et vous êtes l'obstacle? Si c'est ça un chrétien, là, j'en veux pas. J'en veux pas. Mais peut-être un cœur joyeux, un visage qui reflète la joie du Seigneur, certain que le Seigneur peut agir à travers cela pour sa gloire. Et si ce matin, vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus-Christ, mais là, je vous laisse avec cela. Avez-vous la joie de Dieu? La seule place pour le trouver, c'est dans le Seigneur. Dans Actes chapitre 16, il y a un homme qui pose la question, « Que faut-il que je fasse pour être sauvé? » La réponse est toujours la même, « Crois au Seigneur Jésus-Christ et vous serez sauvé. » Et quand on dit « croire », ça veut dire « Croyez que Jésus a payé la dette de vos péchés. » Croyez ce que sur la carte de quoi de Calvaire que Dieu est satisfait. La question qu'il faut poser à ces personnes, êtes-vous satisfait aussi avec l'œuvre de Christ? Et vous savez, cet homme ici, Paul y a annoncé l'Évangile, et qu'est-ce que le texte nous dit? Il s'est réjoui avec toute sa famille en ce qu'il avait cru en Dieu. Et si vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus-Christ ce matin, le désir de mon cœur pour vous, c'est que vous puissiez le connaître et expérimenter aussi la joie, une joie débordante que le Seigneur peut mettre dans votre cœur. Et aussi, il peut utiliser vous avec votre faiblesse et vos forces pour aller chercher d'autres, afin que d'autres aussi puissent connaître la joie de leur salut. On va prier. Seigneur, merci pour ta personne, ce Dieu, comme ta parole nous dit, est notre joie et notre allégresse. Seigneur, pardonne-nous pour toutes les fois que nous avons démontré par notre attitude le contraire. Accorde-nous la grâce, Seigneur, même dans des moments difficiles, de refléter qui tu es, ce Dieu qui s'est révélé à nous et qui veut que nous soyons heureux, joyeux, parce que toi, Seigneur, tu nous remplis de cette joie. Tu nous remplis, Seigneur, de ta personne. Tu nous remplis de ta bonté, de ta grâce, de ta miséricorde. Tu nous as préparé une place au ciel. Seigneur, nous avons toutes les raisons pour te louer, pour t'exalter. Seigneur, de sauter de joie parce que nous avons l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Alors, mets ta bonne main, Seigneur, sur ton peuple. Et si ce matin, il y a quelques-uns qui ne te connaissent pas, Seigneur, ouvre leur cœur, ouvre leurs yeux, afin qu'ils puissent goûter que l'Éternel est bon. Nous demandons ces choses au nom de Jésus. Amen.